9h sur France Culture. Le journal de la rédaction par vous, Benoît Bouscarel.
Bonjour, Emmanuel Macron présentera ce soir les traditionnels vœux du chef de l'État aux Français en matière de communication politique. Ces vœux du 31 décembre revêtent une importance majeure, surtout en période de crise, comme c'est le cas en ce moment. Alexandre Benalla revient une nouvelle fois mettre en difficulté le président de la République. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron à l'Élysée a confirmé hier soir, dans un entretien au journal en ligne Mediapart, qu'il continuait à avoir des contacts très réguliers par messagerie avec le chef de l'État, alors même que l'Élysée affirmait que tout contact avait été coupé entre les deux hommes. Alors, dans son allocution diffusée depuis l'Élysée, à la radio, à la télé et sur le web ce soir, quelle stratégie adoptera Emmanuel Macron? Comment essaiera-t-il de reprendre la main? L'analyse de Cyril Graziani.
L'ordre, c'est un de ses amis qui lui a conseillé d'axer son intervention de ce soir sur ce thème. Comme dimanche dernier, lors de ses vœux avant Noël, Emmanuel Macron devrait appeler à l'ordre et la concorde. Cette fois, pas question de faire des annonces comme le 10 décembre. Les vœux ne s'y prêtent guère normalement. Le dernier à l'avoir fait, c'est François Hollande il y a tout juste 5 ans, en annonçant le pacte de responsabilité. Le but, là, pour le chef de l'État, ce sera de trouver des mots capables de marquer autorité et rassemblement, selon un de ses proches. Montrer qu'il est réellement à l'écoute. Le 10 décembre, il a esquissé un début de mea culpa, jugé insuffisant par ceux qui le contestent. Les vœux lui permettront aussi de se projeter vers l'avenir, donc de pointer du doigt les réformes annoncées qu'il juge indispensables, retraite, fonction publique par exemple, mais aussi des nouvelles initiatives, à commencer par ce grand débat national prévu de janvier à mars. À ses équipes, Emmanuel Macron répète « il ne faut rien lâcher ». Le chef de l'État espère tirer un trait sur cette année 2018. Jamais, il y a 12 mois, il n'aurait pu imaginer qu'elle serait à ce point chaotique.
Cyril Graziani, et au moment même où le chef de l'État s'exprimera à la télé et à la radio, des manifestants en gilets jaunes pourraient bien se trouver non loin du bureau de l'Élysée sur l'avenue des Champs-Élysées. Des appels à la mobilisation ont été lancés pour se joindre aux fêtards qui traditionnellement y fêtent le nouvel an. Un mouvement, les gilets jaunes, qui est une marque de vitalité de la démocratie. C'est le jugement porté sur les gilets jaunes par l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui s'exprime dans une interview publiée ce matin par le Midi Libre. Les États-Unis et Israël ne font plus partie de l'UNESCO. Ils avaient annoncé l'an dernier vouloir quitter l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'UNESCO espérait depuis que les autorités de ces deux pays changent d'avis, compte tenu de quelques avancées cette année, avec notamment des résolutions adoptées par consensus entre les Israéliens et les Palestiniens. Mais finalement, ni Israël ni les États-Unis ne sont revenus sur leur décision. Explication de Fiona Mogadam.
Des départs que regrette l'UNESCO, mais qui ne sont donc pas une surprise. Il y a 7 ans déjà, les deux pays ont arrêté de financer son budget. À l'époque, ils contestaient l'entrée de la Palestine comme État membre au sein de l'organisation. 2 ans plus tard, faute de paiement, ils perdent leur droit de vote à la conférence générale. Les États-Unis continuent tout de même de siéger et de voter au Conseil exécutif. La situation devient explosive en juillet 2017 quand l'UNESCO classe la vieille ville d'Hébron en Cisjordanie comme site d'une valeur universelle exceptionnelle en tant que site palestinien. Israël parle alors d'une réécriture de l'histoire qui nie les liens millénaires des Juifs avec Hébron. Washington décide de réexaminer ses liens avec l'institution. 3 mois plus tard, les États-Unis annoncent leur départ de l'UNESCO. Israël suit dans la foulée. Les Américains évoquent la nécessité de réformer l'organisation et contestent ses partis pris anti-israéliens persistants. Et puis il y a l'inquiétude de l'accumulation des arriérés, justifie Washington. Depuis 2011, leur montant s'élève à 620 millions de dollars pour les États-Unis, 10 millions pour Israël, une dette dont les deux États vont devoir, quoi qu'il arrive, s'acquitter.
Fiona Mogadam, lendemain de vote en République démocratique du Congo, le scrutin qui s'est tenu hier doit permettre de désigner un successeur au président sortant, Joseph Kabila. Les deux principaux candidats de l'opposition ont déjà contesté hier le déroulement de cette journée électorale. Un proche de Félix Tshisekedi parle de bourrage d'urne, tandis que Martin Fayoulou a dénoncé de nombreuses et graves irrégularités dans le pays. Au Brésil, J-1 avant l'investiture du président élu d'extrême droite, Jair Bolsonaro prêtera serment demain, 1er janvier, devant le Congrès à Brasilia. Un temps ensoleillé au sud, et il restera couvert au nord et dans une moindre mesure sur le sud-ouest également. Les conditions seront toujours anticycloniques sur la métropole aujourd'hui. Il fait de moins 2 à 2 degrés ce matin. Il fera jusqu'à 8 degrés sur le sud-est. Les températures maximales seront comprises entre 15 et 18 degrés dans le sud au meilleur de la journée.